Dunque, siamo arrivati oggi al 6 maggio 2014. Je vais vous parler ce soir de ce grand musicien du 19e siècle, mais je vais surtout vous parler de lui en ce qui concerne les voyages qu'il a fait durant toute sa longue vie. C'est une saga incroyable. Vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est difficilement crédible ce que je vais vous expliquer. Mais néanmoins, vous aurez quand même droit à une dizaine de morceaux de sa musique, des chants ou autre chose, durant cet exposé. Alors, vous avez devant vous l'image d'un Verdi en maturité. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer tout de suite qu'était l'Italie à l'époque de Verdi. C'est-à-dire que c'était une poussière d'État soumis à la domination étrangère. Les Autrichiens dans le nord, le pape dans le centre et les Bourbons dans le sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a vécu un âge très vénérable, parvenu au fait de sa gloire artistique et de la position sociale. Une grande différence avec les météores de la génération du bel canto, parce que lui, il a vécu entre deux systèmes, enfin entre deux airs, le bel canto et le vérisme. Alors le passage du bel canto au vérisme, ça a été quand même un peu une petite révolution dans le concept de la musique. Ici, vous avez le visage de Mazzini, qui lui était un révolutionnaire et qui était contre la musique du bel canto, parce qu'il la trouvait inadaptée aux problèmes de la vie, alors que Verdi, lui, il avait plutôt une optique de combattant et un petit peu de révolutionnaire. Et a-t-il fait une séquence politique ? S'est-il senti responsable de l'Italie? A-t-il été député? Oui. Et sénateur, mais de façon honorifique. Il n'a pas siégé comme un politique ordinaire. Mais son engagement était citoyen, surtout sous la forme de rencontres et de proximité intellectuelle, plus que de position politique. Après le plébiscite de l'Italie au Piémont, il est désigné par les habitants de Busseto, je vais en parler tout à l'heure, pour les représenter à l'Assemblée des provinces. Ensuite, Cavour, le premier ministre italien en 1861, lui a demandé de rentrer au Parlement national. À ce moment-là, il a été complètement en dehors de la musique. Il ne pouvait pas faire les deux. Il était engagé dans la politique. Une lettre à un ami, parce qu'il a écrit beaucoup de lettres, un député de l'Italie centrale qui, pendant de nombreuses années, a fait le couillon en écrivant des notes de musique. La mort de Verdi mettra fin à sa carrière. J'ajouterai que l'année d'unification, la Ligue du Nord a proclamé le Va Pensiero du Nabucco, que vous entendrez tout à l'heure, alors que l'Italie du Sud a proclamé l'hymne national. Verdi est un citoyen français, né français, sous Napoléon, que Napoléon couronnait dans le dôme de Milan, roi d'Italie avec la couronne de fer de Charlemagne. Il est devenu autrichien dans le duché de Parme, puis enfin italien. Il va devenir le plus grand compositeur italien du XIXe siècle. Je passe maintenant à la maison natale. Il est né à Roncole. Nous visiterons ensuite beaucoup de lieux de ses innombrables voyages.
Hein? Le son ne passe pas parce que tu as la main devant.
Ah, vous entendez? Je dois recommencer?
Non.
Nous visiterons durant cet exposé les innombrables voyages qui l'ont marqué et qui dessinent les traits les plus saillants de sa personnalité. Ces lieux vont montrer la vie de Verdi comme celle d'un grand voyageur à travers l'Europe durant 50 ans, voyageant avec les moyens limités du moment sans se ménager pour obtenir le résultat qu'il voulait. Ça, c'est l'intérieur de la maison de Roncollet. Le chemin de fer, voilà le réseau ferré de l'époque, en 1870 par là, donc les premières années de sa carrière, il n'y avait pas de chemin de fer. Et ensuite, les calèches. Donc il devait se déplacer comme ça. Il luttera toute sa vie avec des interprètes, des directeurs de théâtre, des metteurs en scène, d'importantes mesures censures diverses, s'associant avec le travail des librettistes et pour ses propres intérêts, aidé par d'excellentes voix humaines, voulues par lui, avec des techniques de chant encore reconnues maintenant. Le talent des écrivains et des poètes qui lui offrirent des sujets, luttant contre la mentalité de ce siècle qu'il a d'une manière définitive écrit à travers des lettres qu'on dit aux environs de 15 000 à 25 000. C'est son acte de naissance en français. Bon, vous n'allez pas très bien comprendre, mais enfin, c'est un acte de naissance que tout français de l'époque avait. Voilà. Il est né le 10 octobre 1813 et enregistré sous le nom de Joseph Fortunin François. Ses parents, Charles Verdi et Louis Gia Luttini, géraient une auberge. Le père n'était pas analphabète puisqu'il était le trésorier de l'église locale de Roncollet. Très jeune, l'enfant étant très doué, fut confié à un organiste, attendez une seconde, parce qu'il ne faut pas que je vous montre trop vite, c'est ça? Oui, voilà. Il a été confié à Provesi, qui était un très grand professeur à Roncollet, parce que l'enfant étant très doué, eh bien, il pouvait déjà avoir un très grand professeur. Primitivement, il avait été l'organiste dans la fameuse église que nous avons vue, et il est devenu organiste à l'âge de 9 ans. À 12 ans, il est parti au collège que vous avez vu, là, avant. Et ensuite, ici, voilà. Et ici, vous avez vu, donc, le fameux professeur Provesi, qui, lui a enseigné très en avance les techniques de la musique entière. Hein. Il a étudié jusqu'à l'âge de 15 ans, d'une manière très, très dure, avec le Provesi. Ici, je vous montre la ville de Busseto, qui à l'époque était une ville de 2000 habitants. Donc pour lui, c'était une grande ville, mais il venait de Roncollet, donc c'était un petit garçon d'un village très pauvre de la région. Ici, nous avons la photo de Baresi, parce que Baresi, dans sa vie, a été la figure centrale de sa vie. Il donna des sons à la fille de Baresi, à la fille qui s'appelait Marguerite, et il obtint une bourse grâce à lui, parce que son idée, c'était, évidemment comme il était très doué, c'était d'aller au conservatoire à Milan, la grande ville de Milan. Il est parti au conservatoire à Milan pour aller, voilà, ça c'est la maison de Baresi où il avait été accueilli. Et au conservatoire de Milan, il a été refusé parce qu'il était trop vieux, de 4 ans. Il était de plus étranger et il n'avait pas satisfait aux épreuves pianistiques. Donc il lui fut proposé un professeur de grande réputation à Milan, le professeur Lavinia, qui fut chargé de sa formation supérieure. Alors pour lui, c'est déjà un motif précoce de conflit de l'ambiance urbaine. Alors ici, je vous montre, voilà, c'est une église baroque dont le cloître était le fameux conservatoire de Milan, qui est aussi maintenant l'institut le plus important du pays pour l'apprentissage de la musique. Ici, c'est une église baroque, mais voilà le complexe avec le cloître, vu de haut. Il est donc à Milan pour ses études. Je vous montre ici le vieux Milan de l'époque, enfin du 18e, oui, on peut dire, 19e. On peut s'imaginer qu'à cette époque, il est devenu donc étudiant. Bon, il a d'abord été étudiant dans une maison qu'il connaissait, puis il est devenu incontrôlable, donc il s'est été mis à la porte de cette maison. Il avait une réputation de turbulent et de mal educato auprès des logeurs de Milan, adolescent difficile, confronté durant sa formation à un univers très urbain. Cela mérite une attention. On peut s'imaginer un jeune homme venant de la campagne à 19 ans, hirsute, recalé au conservatoire, une période où il a expérimenté la faim. Il avait donc faim à ce moment-là. Trois logements se sont succédés et lui, personne ne se souciait de ce jeune garçon modestement assis dans son coin. À l'occasion d'un très grand concert qui se présentait à Milan, les trois chefs principaux étant absents, le professeur Lavinia lui a demandé d'accompagner éventuellement la formation pour les répétitions. Pas tellement convaincu des compétences. Le Lavinia le connaissait, mais il ne savait pas comment il allait être en face d'un orchestre et d'un concert. Verdi dit, c'est lui qui parle, « Je venais de finir mes études et il était clair que je n'éprouvais aucune difficulté face à une partition d'orchestre. J'acceptais et me mis au piano pour commencer la répétition. Mais il me semble que ma physionomie juvénile, ma maigreur et ma tenue tirée comme je le pouvais, n'incitait guère à la confiance. La frustration était présente. » Les études avec Lavinia le conduisirent à avoir un diplôme de compositeur de musique. Ici, c'est quoi ça? Je ne sais plus ce que c'est. Bon, ça ne fait rien, je retourne. Voilà, je retourne là. M'excuse, mais bon, il y en a beaucoup. Bon, alors lui, il est entre deux chaises finalement. Bon, parce qu'il a fini ses études à Milan et puis il y a Busetto. Alors Busetto, il voudrait bien retourner parce que finalement, il est paysan, il n'est pas urbain, il n'est pas milanais, il est étranger, c'est un étranger. Alors, la mort de Provesi à Busetto va faire disparaître les perspectives locales de Verdi. Ici, c'est l'église de San Bartolomeo, voilà, j'y suis, à qui il a demandé d'être organiste et ça lui a été refusé. Une fois de plus, il a été refusé. Il a concouru après pour être maître de musique pour la formation de la jeunesse. Et alors là, il a été accepté. Il avait une vingtaine d'années. Il a signé un contrat, 21 ans exactement, pour 3 ans, comme professeur et compositeur pour la composition musicale de Busetto. Busetto, vous avez vu la ville, bon. Il proposa des codes de compétition de composition à Rossini, à Meyerbeer, pour des pièces lyriques que ces artistes-là voulaient, mais il fallait avoir des petites mains, forcément. Ensuite, pour lui-même, il a composé ce qu'on dit une prima verdiane, qui s'appelle Giovanna di Guzman, version italienne des Vêpres de Sicilienne, créée plus tard, alors qu'il avait 42 ans, en 1855. Entre deux mondes, sa province et la ville, il ne renonce pas à des perspectives plus ambitieuses et c'est pour ça qu'il ne lâche pas ses amis milanais. Mariage avec Margherita, la fille de Baresi. Une petite fille qui naît en 1836, 1837, la petite fille née. En 1838, c'est le petit garçon. Le début d'une vie normale qui aurait pu continuer, mais pas avec le tempérament d'un Verdi qui, malgré les malheurs de sa vie, la mort de sa fille, etc., se résigne à quitter le cocon familial, à quitter sa région. Il démissionne de son contrat comme professeur à Buzzetto et part pour Milan avec sa femme, Margherita. Il reviendra dans sa région en 1844, après le succès d'Hernani à la Scala, mais surtout après la mort de sa fille, de son fils et de sa femme. Ça, c'est la chambre de Baresi. Elle était en permanence à sa disposition. Malgré tous les malheurs, j'assiste, il allait devenir le plus grand compositeur du XIXe siècle. Arrivé à Busseto, il achète le Palazzo Orlandi. Le Palazzo Orlandi, maintenant, c'était son bien, il l'avait acheté. Parce qu'il voulait, avec ses économies, il voulait s'implanter dans cette région. Donc c'est devenu maintenant un très grand musée. J'en fais une deuxième photo. Mais voilà, il a vécu dans ce musée 2 ans, dans cette maison 2 ans, avec la Streponi. Voilà, la photo de la Streponi qui était très jeune. Je vais vous expliquer ce qu'est la Streponi, vous le savez peut-être d'ailleurs. Il composera 3 opéras. Louisa Müller en 2 ans, hein. Stifelio et Rigoletto, entre donc 1849 et 1851. À ce moment-là, il écrit à Baresi, c'est-à-dire le beau-père. Dans ma maison vit une femme, libre, indépendante, aimant comme moi la vie solitaire, avec une fortune qui la met à l'abri du besoin. Ni elle ni moi devons rendre compte à quiconque de cette vie et que personne n'a le droit de nous juger. Un autre contentieux avec la Streponi, malheureusement pour elle, elle n'est pas accueillie à Busseto. Dans les églises, quand il se présente dans une église, l'église se vide. Les rapports donc avec la ville resteront toujours conflictuels. Une incompréhension totale de fond. Donc, un homme qui vit avec une femme non mari, n'est pas son mari, c'est un scandale. Il se décide en 1859 de l'épouser. Alors, il l'épouse ici, voilà l'église de Coulonges sous Salève, qui est maintenant en Haute-Savoie, mais à l'époque, ça se situait dans le royaume du Piémont-Sardaigne, c'est-à-dire c'est toute autre chose, une autre législation, enfin, c'était encore vraiment pas très très bien sûr, mais lui, il avait des raisons pour le faire. Il s'est marié là, en grand secret, après 12 ans de vie commune, avec la célèbre cantatrice Giuseppina Streponi, avec seul témoin, le cocher qui les avait amenés, et le sonneur de l'église, avec un abbé suisse qui deviendra plus tard évêque. D'ailleurs, il s'est marié là parce que le mariage religieux en Piémont-Sardaigne avait valeur de mariage civil. Le théâtre de Verdi, que les gens de Busseto ont voulu lui construire, le laissa froid. Il n'y mettra jamais les pieds, même s'il a accepté l'intitulé du théâtre de Verdi. Il revendit le Palazzo Orlandi Cavalli pour commencer un parcours inimaginable en ce moment au XIXe siècle, au XXIe siècle. Comment peut-on imaginer un parcours comme je vais vous expliquer? Ah, il n'a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de chemin de fer, ni à des calèches. Il va donc, sans ses moyens de communication, malgré une urgence et pourtant une présence sur tous les lieux des créations de ses œuvres, à travers l'Europe et l'Afrique, Paris, Vienne, l'Allemagne, Berlin, la Pologne, Londres, Le Caire, Saint-Pétersbourg, Madrid, Moscou. Et en Italie, Milan, Venise, Naples, Rome, Florence, Bologne, Rimini, Monte Catini Terme, Gênes, Trieste. Ainsi commencèrent ses années de galère, c'est-à-dire pour construire sa carrière, il avait besoin, évidemment, de travailler beaucoup. Il a construit 3 opéras en 2 ans, puis il a fait 18 opéras en combien d'années ? En 10 ans, à peu près, 10-11 ans. On appelle ça les années de galère. Alors bon, ce sont des titres et des opéras qui méritent tous d'être entendus, mais qui sont maintenant, à notre époque, beaucoup moins joués que ceux que nous entendons jouer pour des raisons économiques qu'on peut vous expliquer très facilement. Il est donc, en 1800, à la mort de sa femme, il est, je vais continuer, puisque après il y a d'autres histoires, quand il a les années de galère qui sont terminées, on passe à la trilogie des œuvres les plus populaires. Alors, il y a Rigoletto, Le Trouvère et La Traviata entre 1851 et 1853, donc en 2 ans. Vous connaissez à peu près les œuvres, vous voyez ce que ça peut donner. Et enfin, les œuvres de la maturité, plus dramatiques, moins héroïques, plus désenchantées. Haroldo, Les Vêpres siciliennes, Simon Boccanegra, Le bal masqué, La force du destin. Entre 1855, donc il y a été quand même un moment sans rien faire, et 1862. Et les 4 derniers opéras qui ont été très âgés, Don Carlo, Aïda, Otello et Falstaff. Maintenant, nous allons vraiment commencer à... J'ai parlé de toutes ces villes. On va les parcourir au galop. Ne vous inquiétez pas, on va pas tomber. Hein, je ne vais pas vous faire tomber, je ne vais pas tomber non plus. Mais c'est véritablement ce qu'il faut faire parce que le parcours est tellement très important et puis absolument ahurissant. Il a commencé par Milan. Voilà Milan à l'époque. On voit donc qu'il y a tout Milan, le vieux Milan avec les Navigli, les ponts, on dirait Venise, mais c'est Milan. On voit aussi le style lombard de l'église qui est à côté. Donc c'est dans cette ville qu'il va commencer sa carrière. Cette ville n'avait que 150 000 habitants, c'est pas grand chose. Hein. C'était une cité médiévale et Verdi était un étranger. 70 ans a duré le roman du rapport vital et de travail de Verdi dans cette ville. Arrivé à 18 ans pour accomplir sa formation, dans un parcours sporadique, et jusqu'à sa mort, en 1901, dans le grand hôtel à quelques pas de la Scala. Vous saurez ça tout à l'heure. Durant les mois d'études, il a l'occasion de contacter les milieux nobles et haute bourgeoisie pour s'insérer dans les cercles culturels de la ville. Il n'était pas fou, hein, parce qu'il voulait devenir compositeur d'opéra, et pour cette ville, c'était vraiment... ce qui pouvait être de mieux, à son avis, parce que pas très loin de Busetto, pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Seulement, il était professeur à Busetto, lui. C'était seulement un professeur. Création du premier opéra, grâce à la Streponi, cantatrice réputée à la Scala, qui lui offre la possibilité d'écrire son premier opéra, Uberto, conte di San Bonifacio. Une très bonne prestation de Merelli, le chef de la Scala, qui lui offre une commande de 2 autres opéras. Mais, à ce moment-là, elle perdit son 2e enfant et sa femme. Donc, c'est le marasme complet pour lui, en tout cas psychologique. La 2e création pour la Scala fut un désastre. À ce moment-là, il n'est pas... Bon, peut-être que vous connaissez l'histoire. Il a envie de ne plus rien faire parce qu'il se trouve dans un état épouvantable. Le Merelli lui propose un texte qui est lu également par la Streponi, qui est cantatrice. Elle dit qu'elle veut bien chanter elle voudra bien éventuellement le soutenir pour qu'il fasse ce texte et éventuellement y chanter. Bon, alors à ce moment-là, voilà la Strépone de l'époque. À ce moment-là, il décide de faire le Nabucco en question, qui, contre toute entente, eut un succès considérable. 57 reprises immédiates en 3 mois à la Scala. La Stréponie n'était pas encore sa compagne, mais elle était très introduite et elle s'est cassée la voix dans le rôle d'Abigail de Nabucco. Elle l'aida beaucoup pour l'intégration dans l'aristocratie milanaise. Qu'est-ce qu'il a créé avec Verdi à Milan? Il a Verdi, bon, évidemment, le jour de règne. Hein, Oberto, jour de règne, c'est un fiasco. Nabucco, les Lombards. Et beaucoup plus tard, après une absence motivée par un désaccord complet, parce qu'il était très dur, même si c'était un jeune compositeur, avec un désaccord complet avec la direction de la Scala en ce qui concernait les interprètes et les mises en scène, il s'éloigna de la Scala, il n'est revenu qu'en 1886 pour composer et créer le Don Carlo, l'Otello et le Falstaff. Donc je vais continuer, voilà, la Scala de Milan, c'est de l'époque, hein, c'est pas de maintenant, on voit les costumes, vous voyez tout. Puis je vous montre le dôme. Alors, le dôme de Milan, je ne suis pas d'accord, parce que du temps de Napoléon, quand il a été couronné au dôme, il n'y avait pas cette façade, parce que cette façade n'était pas finie et que Napoléon voulait la finir, mais comme il n'y avait pas d'argent et qu'il a été mis dehors, il ne l'a pas fait. Donc, c'est probablement vers 1890 que cette façade est telle qu'elle est. Nous sommes dans une époque de romantisme littéraire et musical. Et l'un des romantiques les plus importants de l'époque en Italie est Manzoni. Verdi était très admiratif de Manzoni. Et à genoux, il se serait mis pour l'écouter, pour le voir. Il était comme ça. Il était aussi comme ça pour Rossini et pour tous ces gens-là. C'était un tendre aussi. Manzoni meurt et il promet qu'il écrira un requiem, le requiem de Verdi qui est très connu. Mais un an plus tard, et c'est dans cette église, ici, l'église San Carlo, on voit évidemment qu'il y a encore le navire pas très loin, la façade du San Carlo, et le côté qui va créer cet opéra, enfin ce requiem, qu'on dit l'opéra requiem, mais ce n'est pas un opéra, c'est un requiem. Et voilà la photo de Manzoni. Si je vais vous faire écouter quand même un extrait du requiem de Verdi. C'est pas ça. Je vais remonter parce que je me suis trompée d'image. Vous entendrez ça tout à l'heure, n'ayez crainte. Hein. Voilà. C'est chanté par Luciano Pavarotti. Alors, je remets la en route. Nous sommes ici devant la façade de la Fenice à Venise. Mais avant de vous parler de Venise, parce que nous quittons Milan. Grave désaccord avec les mises en scène, le maître est exigeant également pour les interprètes. Il veut choisir lui-même les voix verdiennes sont spéciales. Donc il quitte momentanément, enfin pour des dizaines d'années, la Scala. Et puis voilà, donc c'est terminé pour la Scala. Il est appelé immédiatement à Venise. Alors je vous dis, je vous entends, les voix verdiennes sont spéciales, c'est vrai. J'avoue que Luciano Pavarotti, que nous venons d'entendre, qui a une voix admirable, n'est pas un chanteur verdien. Parce qu'il a une voix d'acier, trop. Il est pour Puccini, par exemple, il est admirable. Il sait tout chanter verdien. Mais ne dites pas aux Italiens que c'est un verdien. Non. Non è verdiano. Il n'est pas verdien. Alors, ici, il quitte Milan. Mais à ce moment-là, après Nabucco de Milan, il est immédiatement réclamé par Venise, la Fenice. En 1846, Venise compte 106 000 habitants. Donc déjà, Milan-Venise, il faut y aller, en calèche, je ne sais pas. La Laguna de Verdi a trouvé une ambiance favorable, mais pas la création. Donc, il est là et il va créer un certain nombre d'opéras. Hernani, Attila, Rigoletto, La Traviata, Simon, Boccanegra. Il a eu des gros soucis. Je vais dans un premier temps vous faire écouter un extrait de la Traviata qui a été dans un premier temps un fiasco complet pour des histoires de costumes d'ailleurs et qui finalement s'est retrouvé à faire un succès merveilleux. Et voilà le prélude du premier acte. Ah, c'est autre chose, hein.
Thank you.
Ici, nous sommes en face du Théâtre Gallo à Venise. Et dans ce Théâtre Gallo a été créé, enfin, je ne sais pas à l'époque s'il était comme ça, l'opéra qui s'appelait Hernani. Et je ne sais pas, j'ai fait une impasse de ne pas vous les faire écouter parce que c'est 6 minutes 14 et je me demande si j'aurai assez de temps pour tout finir mon exposé. Je vais donc faire l'impasse, si on a le temps tout à l'heure, on l'écoutera. Et je passe à la photo suivante. Alors ici, nous sommes en face d'un événement, enfin c'est un film en fait, hein, de ce qui s'est passé dans un théâtre à Venise et qui a été repris par un film de Visconti. Et ça, c'est une des photos qui est sortie, mais il y en a d'autres. Hein, il y avait même des objets qui étaient reversés sur la tête de l'armée autrichienne qui était là à ce moment-là. Et c'était durant la représentation du Trou Vert. Alors, je vais vous faire entendre sur cette image un extrait du Trou Vert, qui est un opéra très, très, très important. Un contralto, hein? Ça a été dirigé par Carlo Maria Giulini, qui était un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle. Alors ici, nous sommes toujours évidemment à Venise, mais comme je vous l'ai dit, à Venise. Maintenant, on est à Trieste. On est à Trieste. Parce qu'attention, j'ai les photos, j'ai le titre des photos qui vient après. Alors, faites pas attention. Ici, c'est le Grand Théâtre de Trieste où a eu lieu la création de Stiffelio en 1849. Donc c'est aussi un opéra dont vous n'entendrez rien, mais qui est très très intéressant, et que vous voyez, ça se doit être l'opéra moderne, évidemment. Ici, vous êtes donc à Florence. Création de Macbeth à la Pergola, c'est le théâtre de la Pergola. Là, j'ai aussi un morceau de Macbeth, chanté par Maria Callas, mais si j'ai le temps, vous l'entendrez tout à l'heure. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps. Nous partons de Venise pour Rome. Voilà, le théâtre, ici, c'est le théâtre Apollo, qui est sur le Tibre, carrément sur le Tibre. Alors, un soir de grande inondation, dans la ville, un spectacle épouvantable de l'inondation, d'une soirée, où il y avait le Trouvère. C'était comme une première à la Scala, quelque chose de terrible, très, très beau, hein, c'est quelque chose de très mondain. Et c'était pour l'ouverture, enfin la création, pas la création, mais le spectacle du Trouvère. Alors là, je vais vous faire entendre un morceau du Trouvère. Thank you. Ici, nous nous trouvons toujours à Rome. C'est le théâtre Argentina. Je crois qu'il n'était peut-être pas à cette époque comme ça, mais c'est au théâtre Argentina qu'un contrat a été passé pour la première du bal masqué. On est en 1859. Et c'est un théâtre où il y a eu un nombre incalculable, comme toujours d'ailleurs, 20 à 30 rappels. Mais c'est à l'occasion de cette première, la Lombardie est toujours occupée par les Autrichiens, qu'apparaissent sur les murs l'inscription de Viva Verdi, que tout le monde connaît. On sait pas très bien. C'est là que ça a été créé, donc à Rome, dans ce théâtre, à l'occasion de cette première du bal masqué. C'est une inscription qui est partie de là et qui est partie ensuite dans toute l'Italie. Et ça voulait dire, c'est un acronyme, ça voulait dire « Viva Vittorio Emanuele Re d'Italie ». Je vais vous faire entendre un extrait donc du bal masqué. Je crois que ça va être ça. Si je vais remonter, je vais remonter. Je pense que ça, voilà. C'est aussi c'est un morceau que vous avez entendu dans le début du bal masqué, au moment où Ricardo, qui va être tué hein, dans le bal masqué, c'est un complot. Il se croit encore à l'abri de tout et il est très joyeux, il est entouré de beaucoup de gens.
Ne ti fossi il genio tuo, ti vedo.
en avez pas assez d'entendre la musique? Bon, nous sommes toujours à Rome, mais alors beaucoup plus tard, il arrive à la gare Termini et il est accueilli par une foule considérable parce qu'il est connu et qu'il arrive ce jour-là, évidemment, à la gare Termini, mais c'est en 1886, c'est beaucoup plus tard. Et il est accueilli donc par une foule, il va jouer, son opéra va être joué, en face du roi Umberto Ier et la reine Marguerite, qu'il invite ensuite à un intervalle pour saluer la foule. Mais lui, il refuse tout rapport avec les grands, il ne veut pas. Il part à la soirée chez lui, donc à ce moment-là, il part à l'hôtel Quirinale à Rome. Après cette fameuse soirée avec le roi, il refuse absolument, c'est une chose qu'il veut absolument pas entendre parler, ça l'intéresse pas du tout. Alors une anecdote qui est très importante, parce qu'il est devenu membre honoraire de l'Académie philharmonique de Rome et il a refusé la croix de commandeur de l'ordre d'Italie parce que le ministre de l'Instruction avait dit à Rossini, sur proposition d'une association pour le renouveau de la musique en un temps où la musique était dévoyée, c'est-à-dire la sienne. Donc il a refusé le ah, c'était comme ça. Nous partons à Rome, à Naples. Alors de Rome à Naples, il y a un parcours de bateau qui a été particulièrement 19 heures de traversée en tempête. Voilà les moyens de communication qu'il avait. Hein. Pour aller de Rome à Naples, il fallait prendre le bateau. Et là, il y a eu un clash terrible entre lui et le grand patron de l'opéra. Voilà, c'était comme ça. Ici, nous arrivons à Naples. Et si je n'ai pas pu vous donner des ordres de lieu où il vivait à Rome, c'est que je n'en ai pas trouvé. Par contre, ici, j'en ai un, oui. C'est l'Albergo delle Crucelle via Chiatamone, un lieu très fréquenté par les célébrités de l'époque, y compris Casanova, si on peut dire. Donc, ça existe encore, cette route. On voit le Vésuve au fond, mais c'est en démolition. Donc, c'était la rue en question était sur l'extrême gauche. Alors, création à Naples. Qu'est-ce qui s'est passé à Naples? 400 000 habitants à Naples à cette époque-là. C'est une ville beaucoup plus importante que Milan, puisque c'est une capitale de région. Mais vraiment, hein, Naples, c'est le sud. Création d'Alvira, de Louisa Miller, au San Carlo. Alors, le San Carlo, c'est ça. De l'époque. Hein. Donc, c'est le San Carlo de l'époque. Et c'est là qu'il a composé le seul grand quatuor à cordes qu'il ait jamais composé. Et ça, d'ailleurs, moi je l'ai, mais ça n'est pas très souvent représenté. En 1873, est représenté Aïda avec le succès tel que les journaux parlent du délire du public qui est continu et croissant 50 rappels après le baisser du rideau. Vous allez le voir, hein, là-bas, ceux qui vont en voyage, vous allez voir Aïda. Ça ne sera pas pareil, mais bon. Le bal masqué ne fut pas représenté à Rome, qu'il était programmé, mais à Naples, mais à Rome, à cause de la censure intolérable des Bourbons. Là, j'ai lu c'était impossible de concevoir quoi que ce soit, parce que les Bourbons étaient... Il encaissait des beaux succès, les Vêpres siciliennes et Simon Boccanegra. Alors, Simon Boccanegra est un opéra de grande envergure. Simon Boccanegra est un doge, c'est le doge. Et je vais vous faire écouter le premier prologue, parce que c'est tellement grand comme opéra, que on a d'abord plusieurs prologues avant d'avoir l'action. Alors, José Van Damme, José Carrera, Mirella Freni, Piero Cappuccilli, qui vont être en train, direction Claudio Abbado. C'est un opéra à charnière, hein. Ça, c'est ça, sur plusieurs générations, mais c'est très difficile d'expliquer. Comme tous les opéras de Verdi, le travail est immense pour faire ça. Donc ici, nous avons devant nous, nous changeons de ville. Je disais que Simon Boccanegra, c'est un opéra à charnière. C'est-à-dire que ça, c'est un premier prologue, il y a un deuxième prologue, un troisième prologue. Ensuite, l'histoire, mais ça va sur plusieurs générations. Et c'est très beau, enfin. Bon. Alors, les derniers contacts avec la ville de Naples furent excellents. Il a beaucoup apprécié et aimé les Napolitains. Et Rossini, en son temps, fut le directeur du San Carlo. Nous changeons de ville complètement, nous allons à Londres, invités à Londres, parce que ici c'est le théâtre Her Majesty's Theatre, qui ne doit plus exister parce que maintenant on ne parle que du Covent Garden, qui est celui chez qui on fait passer exactement les plus grands opéras. Et la création des Masnadieri, qui a été créé en 1847. Donc c'est en 1847 qu'il est allé à Londres et qu'il a passé pour aller à Londres alors qu'il voyait, il savait que la soprano n'était pas sûre d'y être. Il a attendu d'être sûr qu'elle y soit pour partir par la Suisse, descendre le Rhin, passer par l'Allemagne, par Bruxelles et par Paris, et ensuite passer la Manche pour arriver à Londres. Il a dirigé devant la reine Victoria et le prince Albert, et Masnadieri, avec évidemment un succès énorme. C'était une création. Et il a refusé d'être présenté à la reine. Elle a voulu le voir, un contact, parce qu'elle voulait. Il a refusé d'être présenté à la reine. Il y a eu des répliques, évidemment. Les Masnadieri sont repris en ce moment dans les opéras, parce que c'est un très très beau, un très bel opéra du début des années de galère, disons. Il a donc refusé. Il a refusé. Et ensuite, il a rencontré Massini, celui qu'on a vu au départ, qui était un révolutionnaire qui, à l'époque, était en exil depuis 10 ans à Londres. Et beaucoup plus tard, à Londres, il a proposé de remettre, en 1875, donc beaucoup plus tard, il a proposé de remettre 4 séances du Requiem à l'Albert Hall, à Londres. Je ne connais pas où il a dormi à Londres. Je vous ai dit comment il y est arrivé, mais je ne connais pas du tout où il a dormi et ce qu'il a fait. Et nous allons changer de ville complètement parce que maintenant, nous arrivons à Paris. Alors là, vous avez en face de vous la façade principale du château de Compiègne. Parce que Verdi, il a d'abord été décoré de la Légion d'honneur par Louis Bonaparte, président de la République. Ensuite, il a été reçu à Compiègne lors des week-ends organisés par l'empereur Napoléon III. Et il y est allé. Et en 1894, il est devenu Grand Croix de la Légion d'honneur, reçu par Casimir Perier. Voilà, la seule création à Paris, la véritable création à Paris, c'est Jérusalem. Alors là, Paris, c'est quelque chose, parce que, évidemment, c'est une boutique et c'est très très difficile de travailler avec les gens de Paris parce qu'ils ont tous les droits et puis c'est surtout des gens de premier plan beaucoup plus importants que les autres. Mais néanmoins, il restera 2 ans en 1847 parce qu'il a compris que c'est dans cette ville qu'il y avait des très grandes créations. C'est le centre, le premier plan dans une carrière de séjourner à Paris. D'autant que Giuseppina Strepponi, qui est chanteuse orgueilleuse et indépendante, compagne de sa vie, fut celle qui le poussa à aller de l'autre côté des Alpes. Les importants cachets des théâtres de la capitale française et le vent de liberté qui respirait furent décisifs. C'est une des raisons principales pour lesquelles il est allé à Paris et que il y restait un certain temps, d'abord en plusieurs, beaucoup de séjours, mais il a eu beaucoup d'endroits où il a vécu. Ici, nous sommes, je regarde ce que c'est, au boulevard du Temple. Ça, c'est le boulevard du Temple. C'est un endroit à Paris de l'époque où il a vécu avec la Strepponi. Ensuite, au milieu de tout ce qu'il faisait dans les théâtres, évidemment, hein. Bon, ici, c'est à Passy. C'est la maison à Passy. Une maison où il a vécu avec la Strepponi. Là, je descends, et ça, c'est... Je vais remonter pour voir ce que c'est. C'est le théâtre Le Pelletier. Alors le théâtre Le Pelletier a été détruit pour faire place au Palais Garnier. Mais c'est tout le théâtre Le Pelletier qui, pendant très très longtemps, on faisait les plus grandes créations d'opéra à Paris avant que avant, oui, et puis faut pas oublier que le Palais Garnier n'a été opérationnel que très tard, puisque Napoléon III n'a pas vu l'inauguration officielle. Alors, en 1865, la salle, encore un théâtre de Paris, en 1865, Paris est livré aux grands travaux de rénovation d'Haussmann, en train de construire aussi le Palais Garnier, qui remplacera donc le théâtre Pelletier. Il habite alors aux Champs-Élysées, dans une très très belle résidence. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'en avait pas les moyens, je crois qu'il avait parfaitement les moyens de pouvoir aller dans des résidences comme ça. Quoi dire de Paris ? Il a, à ce moment-là, à Paris, il a eu l'occasion, évidemment, c'est la création française des Vêpres siciliennes, parce que les Vêpres siciliennes étaient italiens. Française, absolument, hein. C'était pas autre chose, ça pouvait pas être autrement. Il y avait aussi Aïda qui devait être plus ou moins francisée. Il y avait tout ce qui allait à Paris devait être francisé, il devait y avoir des ballets, un tas de choses qu'on ne faisait pas ailleurs. Et je vais vous présenter ici une photo de Verdi accompagné de Morel dans le rôle de Iago dans Othello, dans une création qui a été faite à Paris. Là, c'était un des plus grands barytons de l'époque. Et alors, Verdi, c'était aux ans... Bon, il n'était pas jeune. Hein, de toute façon, Othello, il ne l'a pas composé quand il était jeune. Ensuite, en dessous, autre chose, il dirige Aïda à Paris. Ça, c'est un document absolument d'époque. Alors, les Vêpres siciliennes ont été donc reconverties en français pour avoir la première en présence de l'empereur. Napoléon III, qui lui a trouvé que c'était très bien, évidemment, mais lui n'était pas content parce que les Vêpres siciliennes a trouvé que c'était pas un grand opéra, mais bon, puisqu'on le lui avait demandé, eh bien, il l'avait fait, et pourquoi pas, hein. Mais pour ça, il a eu des félicitations de l'empereur, et donc, probablement, à ce moment-là, il a été reçu à Compiègne. Ça, c'est l'opéra Garnier de l'époque, je pense, parce qu'on ne voit pas qu'il est comme ça maintenant. Ici, c'est quoi ? Alors ici, je vous montre un opéra, un théâtre de Vienne. Alors là, il est parti à Paris parce qu'il passait d'une ville à l'autre. Ici, il est à Vienne, il est invité à Vienne pour exécuter l'opéra. Qu'est-ce qu'il exécute ? Ah, c'est ici. Il est arrivé à Vienne, Nabucco. Il est invité pour Nabucco à Vienne, mais il devra diriger l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui est toujours le même maintenant, et qui venait d'être fondé. Et dont il appréciait l'esprit novateur. Il a donc dirigé l'opéra Nabucco dans le théâtre, je crois que c'était peut-être celui-là, à Vienne. Il faut dire que Nabucco, contrairement à ce qu'on pense, on va entendre tout à l'heure les fameux Vapensieres, ce n'est pas ce morceau-là qui est le plus intéressant dans l'opéra. Quand on veut bien disséquer l'opéra, c'était une œuvre sensationnelle à l'époque où il l'a écrit, mais pas nécessairement Nabucco. Donc après ça, il est parti à Saint-Pétersbourg. Voilà Verdi en mitouflé dans les fourrures. Ben oui, parce qu'il faisait très très froid. Il a fait deux séjours parce qu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg pour s'entendre dire que la soprano était malade. Et il a dû repartir sur... je vais vous dire comment il est reparti. Il a donc reçu, à l'occasion de l'opéra La Force du Destin, il a reçu la croix de l'ordre de Saint-Stanislas des mains du tsar Alexandre II. Et un opéra qui a été fait en 1862. Il est parti, il était à la disposition de la cantatrice, a forcé Verdi à rentrer sur Paris, mais il est rentré sur Paris par Moscou, Berlin et la Pologne. Parce qu'à Paris, il y avait d'autres rendez-vous, on l'attendait pour une autre création, des autres répétitions. On avait dit, vous en avez pour 2 ans, vous n'allez pas pouvoir faire la force du destin avant 2 ans. Donc lui, sans hésiter, eh bien, il a décidé de traverser toute l'Europe en hiver, je ne sais pas comment, pour aller à Paris. Alors, je vais vous faire entendre à l'occasion de ce... Voilà, le théâtre de Bolchoï. C'est le Bolchoï de Saint-Pétersbourg, de l'époque. Et je vais vous faire entendre un extrait de la force del destino, qui, pour lui, est un opéra puissant, pour Verdi, puissant, vaste. Mais l'auteur de l'opéra pour les Russes est étranger, ce qui déplaît à un groupe de musiciens nationalistes appelé le groupe des cinq, qui depuis un certain temps se bat pour exalter l'opéra russe, en éloignant la tradition des opéras du XXe siècle. Voilà un extrait de La force du destin. Oui, voilà, il quitte Saint-Pétersbourg parce que à Paris, en 1867, dans le public se trouvait le Khédive d'Égypte, grand amateur de Verdi, qui l'a coincé pour lui demander de produire un opéra pour l'inauguration du grand théâtre du Caire. Et ça devait se présenter en 1869. On sait ce qui est arrivé. Et c'est ici, c'est ce que vous voyez avant. Ça, c'est l'opéra du Caire. Probablement celui qui a été inauguré à l'époque, parce que maintenant, ce n'est plus du tout ça. L'opéra du Caire n'est plus du tout le même. Donc, je ne vais pas vous rappeler l'histoire de ce qui s'est passé à l'opéra du Caire. Comment se fait-il que cet opéra, d'abord, il l'a composé à Gênes. Il ne composait pas ça n'importe où. Il prenait ses affaires. Il allait à droite, à gauche, avec ses partitions. Il composait là où il était. Il a donc composé à Gênes une grande partie de l'opéra Aïda. Et pour des raisons de politique française, puisque la guerre de 70 était à Paris et que les décors ne partaient pas, l'opéra a été donc inauguré avec Rigoletto. Et en 1871, le 24 décembre, c'est avec Aïda qu'il a été en fait inauguré. Je vais donc vous faire entendre un air extrait d'Aïda. Vous n'aurez pas les trompettes, hein, parce que... Non. C'est la fin, tout à fait la dernière scène.
Thank you.
attention à ici le Aïda n'est pas un opéra qu'on croit de grand. Si vous allez voir un grand spectacle aux arènes, c'est un opéra intimiste. D'abord, il y a trois protagonistes qui vont être au-dessus de tout. Vous verrez, vous allez le voir, donc vous allez pouvoir. C'est un excellent opéra. Nous partons à Gênes. Maintenant, Gênes a été un lieu où les Verdi passaient 2 mois par an en été, parce qu'ils en avaient assez, d'être à la campagne, à Santa Gata, où il pleuvait toujours. Alors ici, vous avez en face de vous une plaque qui commémore où se trouvait l'hôtel Croce di Malta, où a, comme vous voyez, habité Marc Artem, Giuseppe Verdi, Shelley, Stendhal, etc., etc. C'était un hôtel où tous ces gens-là descendaient, et lui aussi. Il a eu d'autres, parce que comme il allait tous les ans, ici ça s'appelle le, je remonte pour savoir ce que c'est, le Palais Saoli. Là ils ont vécu un certain temps, c'est certainement très, très, très amélioré par rapport à ce qu'ils voyaient. Et ensuite ils ont aussi vécu au Palazzo, un magnifique Palazzo, comment s'appelait-il ? Il prenne Chippé. C'est un palazzo qui a été construit au XVIe siècle pour Charles Quint, et où est allé Philippe II d'Espagne et aussi Napoléon. Donc lui, il avait d'abord pris le dernier étage, et comme il devenait vieux, il a pris les étages inférieurs pour vivre quand il allait tous les ans, 2 mois par an à Gênes. Et c'est dans cet hôtel qu'ont été le mobilier de cet appartement, de cet hôtel, est parti à la villa Verdi, à Santa Gata, et c'est toujours là, des choses merveilleuses qu'il y avait dans cet hôpital. Alors ici, je vais faire l'impasse, je vais vous montrer l'affiche de Falstaff, mais je ne sais pas l'heure qu'il est. Il est déjà l'heure, il est l'heure de partir. Oui, alors, ici, soit on va passer, j'ai oublié de faire des impasses. Alors, si c'est la façade de Santa Gata, là je vais passer très rapidement. Si, ici, c'est Monte Catini Terme, c'est là qu'il a passé un certain temps, quand il était très vieux, parce qu'il aimait bien, il fallait faire des cures, il aimait bien d'aller là, il est aller à Monte Catini Terme, en pensant que vraiment il était fini, il ne savait plus faire rien. Alors il était fatigué, ça n'était plus bon à rien, et puis il ne serait jamais pu faire rien du tout. Et dans les palais de Monte Catini Terme que nous connaissons, plus ou moins, enfin en tout cas les villas, après ça il est rentré et il a composé Otello et Falstaff. Ici, maintenant, je vais vous présenter la villa Santa Gata en vitesse. C'est là que c'était sa vie. Hein. Tout le monde allait le voir. Hein. Il est convoqué, les musiciens, les chanteurs, les librettistes, tout le monde. Et c'était à sa convenance. Ça, c'est la façade principale. Nous allons probablement visiter la façade de côté. Ici, c'est l'entrée, mais c'est une aquarelle. Et à l'intérieur, voilà sa chambre. Oh, il y a beaucoup de photos, hein, j'en ai pris que quelques-unes. Son cabinet de travail. Et ici, avec ses chiens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était donc cultivateur. Hein. Il y avait des terres, il y avait beaucoup de terres. Et puis, il allait chasser. Alors, vraisemblablement, avec ses chiens, il composait peut-être des morceaux du Falstaff, ou certainement. Voilà, ici, c'est une grotte. Là, c'est un lac. Ici, c'est à l'hôtel à Paris. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Santa Gata ? Il a tout rénové, c'était une vieille ferme, un vieux truc. Et comme lui, ses parents, sa famille, avaient été métayers des Pallavicini, lui, il est devenu à reconquérir toutes les terres des Pallavicini. Et que pour lui, un homme qui était sorti, comme on sait, du peuple dans un endroit très pauvre, arriver à ce terme-là, c'était pour lui une révélation, et enfin c'était la fin de sa vie, c'était... Alors, nous arrivons à la fin de mon exposé, je vais vous soulager, je vais vous faire partir maintenant, et c'est... Nous sommes à la fin, ici c'est le... Vous voyez, premier anniversaire de la mort, c'est un Via Alessandro Manzi, nous sommes à Milan en 1901. Vous avez donc le salon qui est toujours dans l'hôtel de Milan, toujours comme ça. Et ensuite, la Casa di Riposo qui est toujours, c'est là où il est enterré d'ailleurs, hein, avec la Sepponi et avec les musiciens qui vivent là. Et... Il l'a fait construire à ses frais, c'est toujours entretenu et les pensionnaires qui viennent là, c'est toujours aux frais de sa succession. Pas de, rien d'autre. Et c'est évidemment, en 1901, c'est au mois de janvier, la ville de Milan est devenue complètement muette parce que tout le monde savait qu'il allait mourir. Et tout le centre de la ville a été paillé de manière à ce que les carrosses et les voitures ne fasse aucun bruit parce qu'on savait qu'il était en train de mourir. Voilà. Alors maintenant, c'est ça. Et je vous donne quelques petites explications sur ses funérailles qu'il n'a pas voulu, mais qui lui ont été faites par le gouvernement. 350 000 personnes se sont rassemblées pour conduire ses funérailles dans la crypte de la maison di Riposo. Piazza Buonarroti à Milan, accompagné d'un chœur de 1000 choristes dirigé par Toscanini et qui vont interpréter le Va pensiero di Nabucco.